Dans ce colloque-là, on va aborder maintenant la question de la socio-histoire de l'État. C'est vrai qu'un des tournants dans tes travaux, c'est le moment où finalement tu évolues de la question de l'histoire sociale des migrations vers la question plus générale aussi de l'État et des formes d'identification. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Oui, disons qu'effectivement, enfin, au départ, moi, j'étais parti dans la j'ai fait ma thèse avec Madeleine Robériou, et j'étais parti dans la tradition de l'histoire sociale, je ne vais pas dire classique, parce que ça paraît très péjoratif, et ça nous a beaucoup apporté. Mais comme moi, j'ai fait ma thèse sur les ouvriers sidérurgistes et les mineurs de Longwy, j'ai découvert, disons, l'importance extrême de l'immigration, à une époque où l'immigration n'était pas un champ légitime de la recherche en sciences sociales. Et pour comprendre l'immigration, il fallait s'intéresser à l'État. Donc c'était un peu à partir du travail empirique que j'ai découvert l'importance de la question de l'État et que j'ai évolué de l'histoire sociale vers ce qu'on a appelé la socio-histoire et que j'ai tissé des liens avec tous les gens, avec mes amis d'aujourd'hui encore, avec qui j'ai travaillé. On a fondé la revue Genèse, la collection socio-histoire avec Michel Auferlet, etc. C'est vraiment dans une ambiance collective où j'avais besoin de nouveaux outils et de me tourner vers d'autres disciplines pour pouvoir fabriquer donc une perspective capable d'expliquer la question de migration d'un point de vue social.
Et du coup, finalement, tu en arrives à envisager la migration sous une forme de double vérité, c'est-à-dire à la fois un déplacement géographique, une mobilité sociale, mais aussi des processus d'identification, de catégorisation. Donc, c'est pas n'importe quel type de sociologie de l'État non plus que tu importes. C'est une sociologie assez dynamique qui prend en compte les pratiques des agents et les dispositifs aussi de contrôle.
Voilà, c'est ça. Les notions de catégorisation étaient très, très importantes pour moi. Et je dois dire aussi en hommage à Abdelmalek Sayad, puisque j'ai travaillé avec lui, enfin en liaison avec lui, et tout ce qu'il a apporté dans la perspective de la sociologie de Pierre Bourdieu. J'ai découvert tout ça à ce moment-là, et ça me parlait énormément, puisque la catégorie de nationalité, par exemple, moi j'ai découvert historiquement, elle fait irruption brutalement dans la vie quotidienne de ces ouvriers paysans du nord de la Lorraine que j'ai étudié à la fin du 19e siècle, alors qu'avant ça n'avait pas de sens pour eux. Donc tout le problème, c'était de voir comment des notions abstraites, c'est très abstraite, la notion de nationalité, entre dans la vie quotidienne des gens et détermine finalement leur propre identité personnelle. Donc c'est à partir de ça que oui, j'ai développé ma réflexion sur la question de l'immigration.
Et donc à partir de là, tu as proposé une forme de groupe analytique, on va dire catégorie et groupe, comment des individus se saisissent de catégories administratives pour se définir intimement. Mais aussi du coup, c'est un schéma d'analyse qu'on va retrouver dans d'autres travaux que simplement l'immigration. C'est inspiré d'autres types de chercheurs sur les questions de colonisation, sur les sourds-muets, sur tout un tas de groupes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur les types de collaboration finalement interdisciplinaire que ça a permis, ce type de tournant?
Oui, disons que j'ai toujours défendu le travail empirique, donc je n'ai pas voulu fabriquer des théories, des choses très universelles, plus dans ce que disait Max Weber sur les tableaux de pensée, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre ce qu'on étudie. Donc c'est à ce moment-là que, oui, par rapport à ce que Thévenot et Desrosières avaient fait sur les catégories socio-professionnelles, Boltanski sur les groupes, j'ai essayé d'articuler les deux en montrant ce qui différenciait une catégorie socio-professionnelle et un groupe socio-professionnel. Et donc c'est la notion de groupement qui a été très importante. Là aussi, les travaux de Michel Auferlet étaient tout à fait essentiels. C'est-à-dire qu'une catégorie, c'est plutôt imposé par l'État sans que les individus aient rien demandé. C'est typique dans l'immigration. Les immigrés ne demandent jamais à ce qu'on les appelle comme ça. Hein. Et alors qu'un groupement professionnel, il y a une démarche d'engagement d'individus qui se conduisent en porte-parole, etc. Alors effectivement, ces concepts-là, ils pouvaient fonctionner à partir de l'immigration, mais ils pouvaient être étendus après à d'autres ensembles sociaux. Ça a été fait, moi je l'ai même pu le faire dans mes propres travaux, mais d'autres chercheurs l'ont pu le faire aussi par la suite. Ouais.
Ça a permis aussi d'engager un dialogue avec l'anthropologie. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot? Parce que finalement, au même moment, bon, Alban Mensah, par exemple, construit un programme d'anthropologie anti-exotique. Il y avait aussi Bazin, qui était assez visible dans l'école, de hautes études. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot aussi sur le type de collaboration que ça a permis de ce côté-là?
Oui, disons que on s'est retrouvé dans la revue Genèse, hein, qui a été un moment extrêmement fort, autour aussi de la notion d'historicité. Il y avait une sorte de convergence pour. C'est-à-dire, moi, ça m'intéressait parce que l'histoire classique avec succession de périodes, ça ne m'intéressait pas. Donc, c'était un petit peu une conception de l'histoire pour comprendre le présent, passé, présent, Norbert Elias, etc. Et cette démarche-là, on la retrouvait chez des politistes comme Offerlé, chez des sociologues comme Topalov, et chez des anthropologues comme Bensa, qui était lui-même, avec Bazin, en rupture par rapport à Lévi-Strauss, par rapport au structuralisme, etc. Et un livre qui a beaucoup compté pour moi, bien que je ne les connaissais pas encore, les auteurs, c'est celui dont la préface qu'ils ont fait à La raison graphique de Jacques Goody, qui a été vraiment tout à fait importante, puisque c'était la notion d'écriture, c'est-à-dire le travail d'État, il commence déjà par de l'écriture, hein, par de la saisie, saisir une société par l'écriture. Et donc ça m'a beaucoup aidé, oui, pour développer après mes travaux autour de la question de l'identification. Je suis remonté après à la genèse de l'État civil, donc non seulement, évidemment, ça se posait de manière particulièrement forte pour les immigrés, parce que c'est la notion de la carte d'identité, de l'orthographe des noms, des formes de stigmatisation qui tournent autour de ça, mais on pouvait aussi en faire la genèse et montrer que c'était un problème universel. Donc tout ça, effectivement, le lien avec l'anthropologie se sont noués, et on subsistait après avec tout le travail qu'on a fait ensemble autour des DEA de sciences sociales aussi, avec Jean-Claude Chambordon, enfin tous les gens grâce auxquels j'ai pu enrichir ma problématique.
Et il y a eu aussi un moment où tu as travaillé sur la catégorie de maltraitance infantile. C'est une autre forme de catégorie administrative, finalement, mais qui a quand même toujours cette espèce de dimension d'impact sur les biographies personnelles. Est-ce que tu mettrais ça dans le même type de démarche?
Oui, disons que ça, c'est un chantier que j'ai ouvert et que je n'ai pas pu développer. J'ai fait un seul article sur cette notion de maltraitance, oui. Bon, à chaque fois, évidemment, dans ce que j'ai pu faire, il y avait aussi une dimension un peu personnelle. C'est ce que j'explique aussi, c'est-à-dire que pour moi, la recherche, c'était une manière aussi d'élucider un certain nombre de questions personnelles. Donc, c'est cette catégorisation de maltraitance à partir de la traduction de l'américain « child abuse », voilà, comment la fabrication d'une catégorie influe aussi sur la vision du problème, ça, quand il devient public, sur l'effet sur les personnes. Donc c'était tout ça qui m'intéressait par rapport à ce qui avait pu être fait avant dans une perspective d'histoire de l'enfance maltraitée. Enfin, je veux dire, là aussi, je pense que les sciences sociales, dans cette perspective introduisant l'État et la notion de cause publique, de problème public aussi, Gusfield, etc., pouvaient avoir une importance pour traiter ces questions. Ça reste un des objets que j'aimerais bien développer par la suite.